prix dans le monde arabe maintenant, c'est une erreur.
D'abord, il n'y aura pas de baisse du cours du pétrole et l'administration Biden l'a déjà admis. Il n'y a pas d'avantage pour les États-Unis, il y a un avantage pour les entreprises.
Radio G. 101.5 FM.
Retrouvez dans quelques instants Tout compte fait, l'émission qui fait la part belle au compte sur Radio G. Écoutez Tout compte fait, l'émission qui fait la part belle au compte sur Radio G. 30 minutes d'histoire et de musique pour bien commencer cette journée. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de différentes provinces de Chine à travers trois histoires. Alors, la première histoire nous vient du sud de la Chine. On va retrouver le peintre Tuo Langka qui va se retrouver contraint de faire un pacte avec le roi des cieux. La deuxième histoire sera celle de Langfu, le chasseur, qui lui va faire une rencontre et vous allez voir, cette rencontre vaut son pesant d'or. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et enfin, la troisième histoire, ce sera une fable tibétaine, celle du singe et du chameau, et on pourrait la conclure ou la résumer par un tel épris qu'il croyait prendre. Ce voyage sera également musical, alors je vous propose aujourd'hui un mantra, un chant tibétain chanté par Chuki Tetong, qui est une des chanteuses folkloriques les plus respectées du Tibet. Je vous propose également d'écouter le son du héros, qui est un instrument chinois antique, un instrument à deux cordes dont la partie inférieure ressemble à un tambour couvert de peau de serpent. Et puis je vous propose, parce que c'est un incontournable pour moi, le thème de ce magnifique film In the Mood for Love du réalisateur hongkongais Wong Kar-wai. Et bien voilà le programme de Tout compte fait pour aujourd'hui. Laissez-vous faire, fermez les yeux, c'est parti.
Tout compte fait, tout compte fait.
Bien loin dans le sud de la Chine, là où vivent des gens que l'on appelle les Thaï, se trouve un village entouré de palmeraies. Un peu en dehors du village, au bord d'une rivière à l'eau transparente, se dresse un vieux pavillon délabré, fait de bambous entrelacés. Et c'est là qu'il y a bien longtemps vivait le peintre Tuo Langka. Alors ce n'était pas un peintre ordinaire et on aurait du mal à trouver son pareil. Il était vraiment possédé par la peinture et peignait sur tout ce qui lui tombait sous la main. Du papier, de la soie ou même du bois. Il sortait rarement et ne faisait qu'une fois de temps à autre un saut jusqu'au temple ou au village. Mais il n'allait pas croire que c'était pour prier ou pour offrir des sacrifices aux dieux. Mais non, ce n'était pas dans sa nature. Il y restait bien tranquille, dans un coin, observant tous ceux qui venaient là et se gravant leurs traits dans sa mémoire. Puis il rentrait chez lui, s'enfermait dans son pavillon, prenait son pinceau et se mettait à peindre. Si dehors le soleil ardait ou si la lune froide brillait, il n'en savait rien. Chaque jour, il peignait 7 visages. Et au bout de la semaine, c'était 7 fois 7 visages qui le regardaient, accrochés sur les murs de son pavillon. Or, il arriva que, juste lorsqu'il achevait de peindre le 49e visage de cette semaine-là, et c'était par une nuit de tempête, quelqu'un frappa à la porte. « Qui cela peut bien-t-il être ?» grommela le peintre. « Qui donc le diable amène-t-il avec cette bourrasque, même quand le hibou, lui, reste tranquille ?»« Je suis la mort, » déclara une voix derrière la porte. « Je me charge des âmes des défunts d'ici, et aujourd'hui le roi des cieux m'a envoyé te chercher. » Le tonnerre aurait bien pu la frapper, cette maudite, pensa tout haut en Lanka. Il avait le cœur bien serré. Il reprit cependant courage et alla ouvrir. Sur le seuil se dressait une ombre, toute de noir vêtue, aussi sombre que la nuit. « Entre donc, » dit Tuo Lanka. « Mais tu dois attendre un instant, il me faut encore achever de peindre quelque chose. » Et comme si de rien n'était, il tourna le dos à la mort, reprit son pinceau et se remit à peindre. En constatant que Tuo Lanka ne se souciait pas d'elle et peignait tranquillement, la mort s'impatienta. « Allons, allons !» « Dépêchons-nous un peu, hein. Tu ne peux pas faire attendre ainsi le roi des cieux. »«
Ne te fâche pas, » répondit doucement le peintre. « Mais moi, il faut que j'achève de peindre au moins cette fillette. Va plutôt en avant et dis à ton maître qu'il y ait un peu de patience. »
Le grand faucheur était fort curieux de savoir ce que Tuo Lanka peignait, et il se rapprocha pour regarder. Son cœur glacé eut un tressaillement. Sur le tableau, une belle jeune fille semblait lui sourire. Et jamais il n'en avait vu de si belle. Alors tout doucement, sur la pointe des pieds, il sortit du pavillon de bambou et s'en retourna au ciel.
« Et alors, tu reviens seul ?» demanda sur un ton sévère le roi des cieux.
« Que votre majesté me pardonne, » s'excusa la mort. « Mais cela ne se pouvait pas, j'ai dû le laisser achever de peindre un visage. »
Oh, de ma vie, je n'ai jamais vu chose pareille, s'exclama le roi des cieux, se départissant complètement de son calme. Allons vite, amène-le-moi, c'est la loi du ciel et je ne la laisserai pas enfreindre par un peintre grincheux.
Le grand faucheur dut donc redescendre sur terre. En traversant la palmeraie, déjà il voyait au loin la faible petite lumière clignotante à la fenêtre du pavillon de bambou, la seule tache claire dans la profonde obscurité de la nuit. Il ouvrit brusquement la porte, mais resta figé sur le seuil. Du tableau, un visage de jeune fille si tendre, si lumineux lui souriait. Un tel visage, même au ciel, ah, il eût été difficile d'en voir un pareil.
« En voilà une hâte !» grommela le peintre, tout absorbé par sa peinture.
Mais comme cette fois-ci, la mort ne se laissa plus repousser, Tuo Lanka, obéissant, rassembla ses affaires de peintre, quelques esquisses, un cierge de sacrifice, et suivit enfin la mort. Quand ils furent devant le royaume des cieux, le peintre s'agenouilla et s'inclina comme il convenait à un simple mortel. Dans la main gauche, il tenait le cierge allumé et dans la droite, son matériel de peinture.
« Bon, bon, » dit le roi des cieux en hochant la tête d'un air magnanime. « Je sais que sur la terre, tu es un peintre célèbre et que tu ne peux pas vivre sans ta peinture. Eh bien, bah, tu pourras continuer à peindre au ciel. »
Tuo Lanka s'inclina profondément en remerciant le ciel lui-même de cet honneur. Pourtant, il ne put retenir quelques larmes. Ça se comprend. Il lui fallait se séparer de son pays, de la terre elle-même, à laquelle aucun ciel ne peut être comparé. Un peu triste, il souffla son cierge, et la mort, le conduisant jusqu'à l'esprit de la vie, lui dit « Dorénavant, ta place est ici. Fais maintenant ce que tu dois y faire. » Et c'est ainsi que le peintre s'installa auprès de l'esprit de la vie. Il disposa sur le sol, près de lui, ses pinceaux, sa pierre à délayer l'encre, son petit pot à eau, son encre de Chine, et il se remit à peindre. Et à chaque fois que l'esprit de la vie devait décerner une âme à un nouveau-né, Tuo Lanka cherchait dans ses portraits celui qui allait convenir le mieux à ce futur être humain. Bon, il faut pourtant l'avouer, Tuo Lanka trichait assez souvent. Il ne voulait pas se séparer de ses plus beaux portraits. il les gardait pour lui tout seul. Les mamans Thaï ont beau lui faire les plus belles offrandes pour qu'il attribue à leur bébé le plus beau visage du monde, c'est peine perdue. Les plus beaux, il les garde pour lui, là-haut, dans les cieux.
Tout compte fait.
Le 15e jour de la 8e lune, quand sur la terre ont lieu d'étranges miracles et que l'impossible devient possible. Au-dessus du pays, une grande lune jaune était suspendue. Le chasseur Landfou prit son panier et monta bien haut dans la montagne pour aller ramasser des fumées de sanglier. Lorsqu'au bout d'une longue et pénible ascension, il arriva au sommet et regarda de l'autre côté, vers la vallée en d'autres temps obscure et noirâtre, il eut le souffle coupé. Devant lui, comme à portée de sa main, la vallée était toute inondée de la lumière dorée de la lune. L'Enfou se pinça la main. Était-ce vraiment une lumière ou bien, il ne pouvait vraiment pas le croire, était-ce une pleine mer de ducats d'or. Mais d'où seraient-ils venus ? Et qui les aurait jetés là, comme ça ? Se disait l'Enfou, tout en regardant autour de lui. C'est alors qu'à la surface de la mer d'or, quelque chose bougea. En regardant bien, l'Enfou vit venir dans sa direction une barque d'or. Et dans la barque, L'Enfou se frotta les yeux. Dans la barque, oui, ce n'était pas un rêve, mais une belle dame se dressait et se dirigeait tout droit vers lui. « Je suis la fée lunaire et je t'attendais. Tu arrives juste à point. Cette nuit, les trésors de la terre se sont ouverts et chaque homme qui vient dans cette vallée en reçoit sa part. » Et tout en disant cela, la belle dame donna 3 ducats d'or à l'Enfou. L'âne fou remercia et, tout joyeux, il reprit le chemin du retour. Mais il avait à peine fait quelques pas qu'il lui vint à l'idée ceci. Une telle merde du cas qui s'étale partout. Mais j'aurais pu lui demander de m'en donner un peu plus. Et là-dessus, il fit demi-tour et retourna à l'endroit où la dame voguait encore sur sa barque d'or dans la mer de Duca. « Fée lunaire, je suis bien pauvre, lui dit l'homme fou. Donne-moi encore 3 ducats d'or, je te prie. » La fée sourit, plongea la main dans la mer et donna 3 ducats brillants à l'homme fou. Le jeune chasseur remercia bien et se remit en route pour rentrer au logis. Il marchait au long de la berge de la mer dorée tout en pensant « Mais qu'est-ce que c'est, 6 ducats, quand il y en a ici tout autour des milliers et des milliers ?»« Je ne retournerai plus les demander à la fée. Hein. Je vais en remplir ici mon panier et enfin je pourrai vivre sans souci du lendemain. » En arrivant à une planche qui servait de passerelle pour traverser un ruisseau, il lui vint à l'esprit ceci. « Mais qu'est-ce que c'est un panier de ducat ? Si j'en rapportais une pleine hotte à la maison ? Ouais ! Mais je ne vais pas perdre mon temps avec mon panier, hein ?» Aussitôt pensé, aussitôt fait, il jeta son panier dans le ruisseau et courut aussi vite qu'il put chez lui. Là, il saisit une hotte et reprit le chemin de la montagne. Et il se dit ceci. Mais qu'est-ce que c'est qu'une seule hotte ? C'est vraiment dommage de laisser là tant de ducats brillants. Mieux vaut appeler ma femme pour qu'elle prenne une deuxième hotte. Et sur ce, il appela sa femme. L'homme fou courut comme un fou dans la montagne, suivi de sa femme pour aller vers la mer de ducats. En arrivant à la passerelle, il se dit. Mais deux hottes, c'est rien du tout. Mieux vaudrait appeler mon beau-père et ma belle-mère à la rescousse et prendre une charrette. Alors il retourna en hâte sur ses pas, toujours suivi de sa femme. Ils allèrent appeler à l'aide le beau-père et la belle-mère. Et tout essoufflé, les voilà tous les quatre qui couraient dans la montagne. Ils couraient, ils couraient, ils couraient, l'haleine courte. Et voilà qu'ils s'approchèrent du sommet de la montagne, derrière laquelle s'étalait la mer de Ducador. Mais soudain, la lune sembla pâlir. Oui, elle pâlit. Le sommet de la montagne s'inonda d'une lueur rose. Puis les rayons rouges du soleil levant qui s'étendirent maintenant partout. Muet de stupeur, l'âne fou était là. Et il contemplait la vallée. La mer de Ducador avait disparu. « Mais où sont les ducats ?» cria l'épouse. « Oui, où sont-ils les ducats ?» criaient le beau-père et la belle-mère. « Ils ont disparu. Ils ont disparu et ils ne reviendront plus jamais. » dit l'âne fou dans un seul souffle. Alors, il leur raconta comment il avait reçu 3 ducats d'or de la fée lunaire, puis encore 3 autres, et comment il en avait rempli un plein panier qu'il avait jeté dans le ruisseau. Plein d'espoir, ils se hâtèrent vers la petite passerelle. L'eau sauvage tourbillonnait dans le ruisseau, il y avait là des pierres, mais pas de traces de panier. C'est dommage pour le panier, déclara l'homme fou. Il ne me reste plus maintenant qu'à en tresser un autre.
Tout compte fait. conte fée.
Le singe et le chameau. Un singe, juché à la cime d'un arbre, examinait les environs. Ainsi, son regard tomba sur un verger de pêchers situé de l'autre côté de la rivière. Il dut en avaler sa salive, tant la vue des beaux fruits sucrés lui faisait venir l'eau à la bouche. « Si je pouvais y arriver !»« Mais comment traverser la rivière ?» se disait-il. Il constata alors qu'à côté du verger de pêcher, s'étalait un joli champ de canne à sucre. « J'ai trouvé !» se réjouit-il aussitôt. Et il dégringola de son arbre pour aller trouver son compère le chameau. Ah, compère, où que j'aille, je pense toujours à vous. Ah, j'ai découvert un champ de canne à sucre qui ferait votre affaire, dit le singe au chameau.
Ah, où se trouve ce champ ?
Demanda l'autre alléché. Eh bien, il faut traverser la rivière, puis vous prenez à droite, vous allez tout droit, puis vous tournez à gauche, et bah vous voyez le champ sur votre droite.
Bon, jamais je ne me souviendrai de tout ça, objecta le chameau.
Ne voudrais-tu pas avoir l'aimabilité de m'y conduire ?
Oh, mais avec plaisir, approuva tout de suite le singe.
Mais seulement, je ne peux pas traverser la rivière, je ne sais pas nager.
Oh, mais qu'à cela ne tienne, je sais nager, moi, dit le chameau.
Je te porterai sur mon dos jusqu'à l'autre rive. Le singe grimpa donc sur le dos du chameau, s'installa confortablement entre ses deux bosses, et le chameau traversa la rivière à la nage. Quand ils furent arrivés au champ de canne à sucre, le singe dit à son compagnon « Compère, tandis que vous restez ici, je vais aller guetter par là, hein, du côté du verger de pêcher. » D'où on a vu dans tous les sens. En fait, je crains que le gardien ne vienne vous surprendre.
Oh, tu es bien aimable.
Et je ne sais pas comment je pourrais te rendre ta gentillesse, dit le chameau.
Et le voilà qu'il se met à brouter de la canne à sucre et le singe de se hâter d'aller au verger.
Le singe grimpa sur le premier pêcher rencontré et se jeta sur les pêches, se les fourrant l'une après l'autre dans la bouche. Oh, comme elles étaient sucrées ! Oh, comme elles sentaient bon ! Il en avait le menton tout dégoulinant de jus poisseux. Quand il en eut mangé jusqu'à plus faim, il retourna au champ de canne à sucre et le chameau lui continuait à brouter.
« Bon, nous devrions rentrer maintenant, hein, » dit le singe que la tante agaçait.
Oh, attends encore un peu, demanda le chameau.
Oui, mais moi j'aimerais mieux que l'on s'en aille, hein, insista le singe.
Ah oui, j'arrive.
Oh, prends un peu de patience, hein, pleurnicha le chameau.
Oh. Bon compère, si vous ne venez pas tout de suite, j'appelle le gardien, hein, menaça le singe, irrité d'attendre encore.
N'en fais rien, je t'en prie, il me battrait, dit le chameau.
Oh là le garde, viens vite! « Il y a un chameau dans tes cannes à sucre. Ah, si tu ne viens pas, hein, il tondra le champ. »«
Mais tu es fou, quoi ?» demanda le chameau.
Le singe courut vers la rivière, tout en continuant à appeler le garde. Ce dernier, qui dormait comme une souche, fut réveillé par ses cris, sortit de sa cabane, se munit d'un bon gourdin et courut vers le chameau. Et des coups se mirent à tomber dru sur l'échine du malheureux qui prit ses pattes à son cou et courut de toutes ses forces vers la rivière. Le singe l'y attendait, caché dans un buisson.
Oh, « Mon pauvre !» plaignait-il le malheureux chameau en le voyant arriver tout meurtri. Oh,
« Mais pourquoi ne m'avez-vous pas écouté ? N'avez-vous pas laissé ces cannes à sucre ? Vous auriez évité cette bastonnade !»
« C'est de ta faute. Pourquoi as-tu appelé le gardien ?» lui reprocha le chameau.
« Moi ? J'ai appelé le gardien ?» s'étonna le singe.
Bon, « Bon, qui d'autre l'a appelé si ce n'est toi ?» s'indigna cette fois vraiment le chameau.
« Oh, vous avez cru cela, compère, mais je vous assure que je n'ai pas crié !» insista le singe.
« Tu n'as pas crié ? Et moi, je n'ai pas reçu de volée de coups de bâton ? J'ai seulement rêvé !»
déclara le chameau d'un ton qui mit fin à la discussion. Le singe se gratta un moment la tête, puis
Puis il finit par se hasarder à dire « Bon, ma foi, compère, c'est possible, après tout, que j'ai crié, bon, je suis parfois si nerveux que je crie sans trop savoir ni pourquoi, ni comment, c'est une maladie, je n'y peux rien. Mmh, »« Ouais, ça va comme ça, dit le chameau. N'en parlons plus, allez, monte sur mon échine et rentrons. » Le singe, sans hésiter, grimpa vite sur le dos du chameau et s'installa confortablement entre ses deux bosses. Le chameau entra dans le courant. Et quand ils furent au milieu de la rivière, le chameau cria soudain « Oh ! Je vais nager sous l'eau ! Je vais nager sous l'eau !»« Mais qu'est-ce qui vous prend, compère ? Et moi ? Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Oh, bah, c'est que je suis parfois si nerveux que je dois nager sous l'eau sans trop savoir ni pourquoi, ni comment, bah, c'est comme une maladie, je n'y peux rien !» dit le chameau, qui plongea sous la surface. Que ce voyage en Chine vous a plu. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les précédentes à partir de maintenant sur le site internet de Radio G. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe de J'entends des voix. Et quant à nous, on se retrouve pour la dernière émission de cette saison, le jeudi 30 juin à 9h10. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute de Radio G. À bientôt.